Alors, le 21 janvier 2021, à 20h38, à la salle polyvalente, conseil municipal de Tille. Nous commençons par l'approbation du compte-rendu, pardon, du dernier conseil municipal. Ah, il faut d'abord faire les pouvoirs, excusez-moi, l'annonce des pouvoirs. Donc, en pouvoir, nous avons Angélique Ruiz qui donne pouvoir à Isabelle Rouvière, Christian Julien qui donne pouvoir à Valérie Pomaze, Damaris Caropi qui donne pouvoir à Michel Arget et Estelle Grumet qui donne pouvoir à Victor Passarella. Je crois que j'ai fait le tout. Donc oui, nous devons approuver le compte-rendu du dernier conseil municipal. Est-ce que sur ce dernier conseil municipal, il y avait des remarques, des anomalies? Non. Est-ce qu'on peut passer donc à l'approbation? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions adoptées? Je vous remercie. Tout de suite, la première délibération. Avant, bien évidemment, heureusement que Delphine est là. Pour se désigner, c'est ça? Secrétaire de séance.
Je crois que c'est d'office.
C'est bon, il y a...
Eh bien, merci
Il y a quelqu'un
Delphine,
qui veut
à
juste faire la place?
l'unanimité.
Non, vas-y, vas-y, vas-y. Fais, fais.
À l'unanimité, tu es désigné
Ah oui,
secrétaire de
quelqu'un d'autre.
séance. Donc, cette première délibération, mise en commun des agents de police municipale et de leurs équipements.
D'accord.
Donc, il est l'objet pour mutualiser donc, les polices municipales qui s'opèrent donc entre plusieurs communes. Je vous rappelle par exemple que Tramois a conventionné depuis plusieurs années maintenant avec la commune de Saint-Maurice-de-Bénaud. Et nous avons donc travaillé depuis ces derniers mois avec la commune de Bénaud. Donc, nos deux communes ont souhaité créer par voie de convention un service mutualisé de police municipale, dite police pluricommunale, par la mise à disposition des agents de la police municipale de Bénaud. Donc, les agents de police municipale auront pour mission d'assurer sur chacun des territoires la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique, conformément aux articles du Code général des collectivités territoriales. Cette convention concernant, qui régit le fonctionnement du service est conclue pour une durée de 1 an, reconductible expressément par les parties concernées. Elle fixe les conditions, les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des policiers municipaux et de leurs équipements, nombre total des fonctionnaires relevant des cadres d'emploi, nombre d'heures de mise à disposition, modalités de participation financière de la commune de Tille. Les agents de police sont de plein droit mis à disposition de la commune dans les conditions prévues par la convention. Et pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire de la commune, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de la commune. La mise à disposition des agents est prononcée pour la durée de la convention. La demande de port d'armes prévue à l'article L505 du Code de la sécurité intérieure est établie conjointement par les deux maires, signataires de cette convention. C'est la commune de Bénaud qui est chargée d'acquérir et de détenir les armes. Le temps prévisionnel des agents de police municipale pour la commune de Tille proposé est de 9h30 par semaine, soit 499 heures sur une année pleine. Ce temps de travail comprend un temps de présence réelle sur le territoire d'un ou plusieurs policiers simultanément et un temps de travail administratif inhérent aux missions. Donc, cette intervention pourra être effectuée suivant l'entrée et la sortie des écoles maternelles et primaires, des contrôles, des patrouilles et bien évidemment du temps aussi administratif. Il est proposé également de prévoir 50 heures mobilisables supplémentaires à la demande de la commune, notamment pour des événements tels que l'organisation d'une manifestation festive ou carnaval ou
Carnaval, défilé.
sous des ou farfouille par exemple à la demande. Donc ce temps d'intervention pourra être augmenté à la demande du maire de Tille selon les besoins de la commune et en accord bien sûr avec la commune de Bénaud dans la limite d'un temps plein. Le coût de prévisionnel annuel est de 13 504,61 euros, qui est basé sur la base du coût réel des agents et d'une participation aux coûts fixes liés à leur mission. Donc voilà, je vous demande de bien vouloir approuver cette convention et nous charger entre Beno et nous de signer tous les documents s'y afférents. Est-ce que vous avez des questions ?
J'ai une question.
Oui.
Je ne suis pas sûr d'avoir compris que sur le port d'armes, donc j'ai compris que les maires étaient décisionnaires, mais ils ont fait une demande de port d'armes.
Non, la police municipale de Beno, les policiers sont armés. Sauf que, il faut faire une demande au niveau de la préfecture pour que cette police municipale de Beno puisse se déplacer à Til dans les mêmes conditions qu'à Beno, c'est-à-dire qu'elle soit aussi armée à Til.
Et quelle est la position de la commune de Til quant à ces armes ? Les policiers armés ou pas ? C'est une question.
De fait, ils sont armés.
Donc,
ils ont les mêmes conditions que ce soit à Beno ou à Til. Donc, la question ne s'est pas spécialement posée de savoir s'il fallait qu'ils posent leurs armes à Beno avant de venir sur Til, ce qui est un petit peu compliqué dans les faits à mettre en place. En fait, si tu veux, à Beno, ils sont armés. C'est une police municipale armée. Donc, en fait, là, la convention, elle a pour but de dire à la préfecture, voilà, ils vont se déplacer sur Til. Ils sont armés à Beno et ils vont venir armés à Til.
Il me semblait quand même que, pour la population tiloise, avoir la connaissance de l'arrivée de la police municipale, ça a été fait largement communiqué et diffusé, mais que cette police soit armée, c'est un deuxième niveau d'information.
Eh bien, voilà, c'est l'occasion.
Ok, d'accord.
C'est l'occasion. En fait, c'est toutes les demandes qui sont inhérentes. Et en fait, c'est comme ça à Beno depuis longtemps, je pense. Hein. Ils sont armés depuis longtemps. Donc, voilà. Mais je pense qu'ils en feront bon usage, comme ils le font à Beno. voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques concernant cette convention ? Est-ce que je peux donc la soumettre à votre vote ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Les abstentions adoptées, je vous remercie. La deuxième convention, c'est une convention de partenariat en faveur de la promotion de l'efficacité énergétique. Comme on l'a évoqué donc à notre commission générale, c'est la société donc CertiEnergy qui incite l'ensemble des acteurs à réduire leur consommation énergétique par la mise en œuvre de travaux d'efficacité énergétique et qui accompagne les communes dans ce processus pour obtenir des CEE générés par ces travaux. Donc c'est comme des points énergie. Voilà, je cherchais le terme. Donc c'est une démarche qu'on a engagée avec le SIEA en vue d'isoler les combles perdus des bâtiments communaux dans le cadre de l'opération Isol 01. Donc les combles perdus des bâtiments communaux, ils se situent, Jean-Marc, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est la mairie et une partie de l'école.
Oui, parce qu'il n'y a pas un toit de partout sur l'école, c'est
une
terrasse. Il y a sur les 983 mètres carrés, il y a 600 mètres carrés de combles.
D'accord, c'est précis. Donc nous vous demandons de conclure ce partenariat avec la société CertiEnergy en faveur donc de cette promotion de l'efficacité énergétique. Donc c'est CertiEnergy qui va réaliser un audit pour lister tous les bâtiments et faire précisément le recensement de tous les lieux où on pourra donc isoler nos combles et nous permettre d'obtenir ces points qui vont nous permettre d'obtenir des subventions pour pouvoir effectuer ces travaux à moindre coût. Si j'ai bien résumé la convention. Est-ce que vous avez, c'est un petit peu comme pour les particuliers, il y a la possibilité d'isoler les combles, etc. C'est un petit peu la même chose pour les communes. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette convention ? Eh bien, donc, je vais la soumettre à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté. Je vous remercie. Troisième délibération, c'est une convention de mise à disposition avec promesse de bail emphytéotique. Donc, comme on vous l'avait présenté aussi en comgé, nous souhaitions conventionner avec la société Luxel dans la mise à disposition d'une partie de la parcelle numérotée A1522, route de Nièvrose, avec promesse de bail emphytéotique. Cette société a pour activité de développer et d'exploiter des systèmes photovoltaïques connectés au réseau. Donc ça aussi, c'était une promesse de campagne, de pouvoir sur le site qui se trouve à côté des étangs de Til, permettre la réalisation d'un champ photovoltaïque qui puisse produire de l'électricité. Puisque, en fait, au niveau de... C'est un souhait et une volonté du SIEA et puis de l'État, etc., de pouvoir, sur des terrains qui sont dits en friche, puisque ce terrain n'est pas un terrain agricole, ni constructible, ni rien. C'est une ancienne carrière avec un sol relativement pauvre et qu'il n'est pas possible de faire quoi que ce soit dessus, puisqu'en plus, il est traversé par une ligne à haute tension. Donc ce projet peut être réalisable, je dis bien peut-être réalisable à cet endroit. Il faut donc signer une convention pour permettre à la société de réaliser l'ensemble des études nécessaires à la définition, la conception et la réalisation du projet. C'est la partie la plus longue de la phase de réalisation, puisque déjà il y a une étude environnementale qui est réalisée sur toute une année pour permettre de connaître quelle est la faune et la flore dans l'endroit sur toutes les saisons. Donc déjà, il y a une étude environnementale. Après, il y a tout un système d'études par rapport à tous les services de l'État qui sont concernés et qui donnent ou non leur aval. Et donc ces périodes de réalisation et d'études courent sur environ une période de 3 ans. Ensuite, vient donc, si tous les feux passent au vert, on passe dans la réalisation, et c'est pour ça que la société Luxel prend en charge l'intégralité de toutes ces phases. C'est quelque chose qui ne coûte rien à la commune, mais bien évidemment, il faut conventionner avec eux pour leur dire qu'on est d'accord, si tous les feux sont au vert, de signer et de réaliser ce champ photovoltaïque à cet endroit avec eux. C'est l'objet de cette convention, donc c'est pour ça qu'il vous est proposé de bien vouloir ratifier ces délibérations. Donc il y a donc une procédure de révision. Pardon ?
C'est une autre délibération.
C'est une autre délibération. D'accord. Donc là, nous sommes dans la procédure. Pardon ?
Là, c'est juste la convention.
Là, c'est juste la convention avec Luxel. Ça, j'ai été trop vite. Est-ce que vous avez des questions sur cette convention ?
On dit que ça ne coûte rien, mais en fait, ça rapporte même à la commune parce qu'on loue du coup le terrain. Enfin,
Si tous les feux sont au vert, bien c'est évidemment, il y aura des retombées financières pour la commune. Et si ça se fait avec la société Luxel, il y aura également la possibilité pour les Tillois de participer à ce projet avec une participation citoyenne, ce qui était un petit peu aussi l'objectif est défini dans notre programme, puisqu'à l'époque, nous avons, nous étions en campagne, signé le pacte de transition avec l'association côtière en transition. Et ça faisait aussi partie du pacte que l'on avait signé avec eux. Et c'est en quelque sorte grâce à eux que, par le biais d'EDF Énergie Renouvelable, nous avons pu entrer en contact avec la société Luxel, qui propose cette participation financière aux habitants du village. Et donc, ça boucle un peu la boucle de ce qu'on avait signé aussi pendant la campagne. Donc, je trouve que le projet est vertueux à cette... De ce côté également.
Et on a une présentation du projet sur le site internet de la mairie.
Oui, le non, projet.
Si je ne me trompe pas, c'est dans l'onglet.
Projet.
Au quotidien.
Alors vous pouvez donc voir l'ensemble du descriptif du projet sur le site de la mairie en cliquant sur.
Til
au quotidien.
Environnement.
Environnement. Il y a le plan climat, rénovation énergétique.
Non, c'est pas là le chanson.
L'environnement.
Ah non, c'est dans les projets.
C'est dans les grands
projets. C'est dans
les grands projets.
Alors,
les grands projets champs solaires.
C'est village. C'est
village.
Alors, onglet village, grand projet.
Champs solaires.
Champs solaires. Là, vous avez tout.
Avec le projet du groupe Luxel.
Qui est tout détaillé.
La présentation du projet.
La présentation du projet avec tout ce que ça englobe et ce que ça rapporte, etc. Si les feux passent au vert, hein, on est bien d'accord.
Et si les feux ne passent pas au vert ?
Eh bien, ça s'arrête là.
Ça s'arrête là et on ne paye pas les prix.
Ah non, non, non. En fait, dans tous les cas, on n'aura rien à débourser. Ça ne pourra que nous rapporter, mais en tout cas, il n'y aura rien à débourser. C'était aussi le ce qui est ce qui est ce qui est voilà.
C'est pour le compte, c'est pour pas que ça soit le contraire. Que s'il y a tous les feux ouverts, on leur dit ben cassez-vous.
Voilà.
C'est parce qu'ils ont payé les études, il faut qu'à la fin ils soient sûrs de.
Par contre, les feux peuvent être pas tout à fait ouverts, mais le devenir si après il y a des parce que par exemple, je sais plus pourquoi faire, il y avait eu l'histoire de la salamande, je sais pas quoi, il y avait fallu. Revenir.
Ben là, en fait, c'est par rapport au service de l'État qui étudie la faune et la flore. Voilà. Et si l'État dit, eh bien, vous avez la grenouille bleue, etc., qui passe, et donc, soit le projet ne se fait pas, parce qu'il faut préserver la vie de cette grenouille,
sinon,
soit on peut peut-être la reclasser ailleurs. Oui, ça, je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Ouais. Je ne suis pas.
Ça, c'est le service de l'État qui te donne les.
Voilà, ça c'est les services de l'État qui vraiment définissent les conditions et qui étudient tout ça entre la faune et flore sur les quatre saisons. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes de l'ARS qui.
Ils n'étudient pas que les boulons.
Comment ?
Ils n'étudient pas que la faune. Parce que là, tu parles de l'ARS, ils ont refusé la passerelle à Saint-Maurice parce que les boulons ne sont pas conformes aux réglementations sur la loi sur l'eau.
Oui.
Donc ça prend du retard encore la passerelle.
Oui, puis il n'y a pas que l'ARS, il y a la DREAL, il y a tous les services de l'État. Hein. Il y a plusieurs services qui sont concernés. Et notamment, je sais qu'à Néron, ils ont fait une étude par rapport à un autre projet. Et là, il y avait une vipère particulière. Et donc, c'était aussi, il fallait trouver la possibilité pour que cette vipère puisse continuer à vivre dans l'endroit. Quoi. Donc, c'est vraiment... Comment ? Alors là, moi, je sais pas avec qui ils ont conventionné. Enfin, nous, voilà.
Quand tu fais les travaux.
Après, peut-être y avoir des engagements de la société qui peut respecter certaines clauses.
Alors ça, c'est la société qui signe avec les services de l'État, voilà. Enfin, qui s'engage par rapport aux services de l'État et voilà. Par rapport à ce que les services de l'État vont demander.
Voilà, ça.
Ça, c'est encore un autre. Mais ce n'est pas nous qui intervenons à ce domaine. Nous, on confie l'étude, toutes les études à la société Luxel, à eux de tout faire.
Oui, la promotion.
Voilà, pour que ça puisse se faire. Mais là, c'est vraiment la phase la plus longue, puisque ils nous ont expliqué que c'était au moins 3 ans. Alors qu'après, une fois que les feux sont ouverts, il n'y a plus que, si on peut dire, 2 ans avant de commencer les travaux. Donc, c'est vraiment ça qui est le plus long. Voilà. Est-ce que il y a d'autres questions concernant cette convention ? Alors, je la soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adoptées à l'unanimité. Je vous remercie. Et j'allais trop vite, puisqu'il y a toujours une convention sur ce sujet. Par rapport donc au projet d'installation de ce parc photovoltaïque, la délibération de principe prise par le conseil municipal validant ce projet d'installation du parc photovoltaïque sur une partie de la parcelle A1522-6 route de Nièvrose et prévoyant la mise à disposition avec bail emphytéotique de la parcelle concernée ou d'une partie de celle-ci, vu le zonage actuel du PLU en vigueur qui n'autorise pas l'implantation de tels projets en l'état, donc vu la compétence en matière d'urbanisme de la commune, vu le code de l'urbanisme et tous ses articles qui vont bien, les dispositions notamment du code de l'article 121-17 qui est le code de l'environnement, précisant que la procédure entre dans le champ du droit d'initiative, et que cette procédure de déclaration de projet peut être utilisée lorsqu'un projet, même d'initiative privée, présente une utilité publique ou un intérêt général et permet ainsi de mettre en compatibilité les documents d'urbanisme. Vu que les projets de parcs photovoltaïques ou centrales photovoltaïques au sol sont considérés comme des équipements d'utilité publique ou d'intérêt général, car ils permettent la fourniture d'électricité propre à grande échelle. Donc la procédure de déclaration de projet est composée des étapes suivantes. Élaboration du dossier de déclaration de projet, examen conjoint du dossier avec les personnes publiques associées. Donc ça, personnes publiques associées, c'est tous les services de l'État dont on a parlé avant. Enquête publique, donc bien sûr, portant sur l'intérêt général du projet et la mise en compatibilité du PLU de la commune. Ce dossier sera soumis pour avis à l'autorité environnementale afin de s'assurer que le projet ne porte pas une atteinte excessive à d'autres intérêts en présence, parmi lesquels les enjeux environnementaux, c'est la petite grenouille bleue ou la salamandre grise, etc. Le public, après, aura donc 4 mois à compter de la délibération pour exercer son droit d'initiative et répondre aux conditions de publicité fixées par les articles du Code de l'environnement. Il est donc proposé à notre conseil municipal d'autoriser la réalisation d'une déclaration de projet pour reconnaître l'intérêt général du projet et mettre en compatibilité le PLU avec le projet d'implantation d'un champ photovoltaïque sur la commune de Thil, et donc de permettre au maire d'engager les frais d'études si besoin est pour compléter le dossier de déclaration de projet.
Juste pour préciser ce point par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, la commune, elle avancera les frais, on sera remboursé par Luxel sur le volet urbanisme. Sur le reste, c'est eux qui prennent toutes les études, il n'y a pas de sujet. Mais sur la modification du PLU, ils vont faire l'étude eux, ils vont nous faire la proposition de modification. Nous, on avancera les frais, donc budgétairement, vous le verrez vraiment dans le budget. Par contre, ils nous rembourseront, on aura la recette équivalente.
C'est ça. Des frais. Est-ce que vous avez des questions sur cette déclaration de projet?
Si les feux sont ouverts.
Oui, si les feux sont ouverts, hein, puisqu'on dit bien que, par exemple, l'atteinte excessive à d'autres intérêts en présence, les enjeux environnementaux, c'est ce que je disais, tous les services de l'État et tout, une fois qu'on a passé toutes les étapes.
Dans le meilleur des cas, il disait que ce serait début 2022 qu'on commencerait à réfléchir sur la modification.
Voilà. Puisque la zone du PLU, là, donc ce terrain, il est communal, mais la zone est NL et qu'elle ne précise pas qu'elle permet, elle autorise l'implantation d'un champ photovoltaïque. Il n'y a pas beaucoup de PLU qui taguent des endroits. Surtout que nous, quand on a commencé l'étude, c'était... Enfin, pour l'instant, ce n'est pas gagné, c'est qu'un projet. Hein, donc je pense qu'il ne faut pas... Il faut pas s'emballer, hein, parce que voilà, la route est encore longue, comme on peut dire, avant qu'il se passe quoi que ce soit à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, eh bien, je vais soumettre donc à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adoptées. Je vous remercie. Ensuite, je vais passer la parole à Olivier pour le rapport d'orientation budgétaire. Ah, c'est une alarme. mais on aurait quelque chose sur...
Petite interruption de séance pour l'école.
C'est l'école ?
Si, ça y est. Oui, c'est l'école.
Ah oui, alarme intrusion. Parking. Détecteur d'ouverture, parking. On peut peut-être couper là.
Je sais pas. Après, ça va un peu.
Oui, ça les gens vers l'enclos.
C'est
le gros
ce que
je
voulais dire. Je suis agressé.
On n'a pas le droit de couper, c'est intégral.
Non, c'est intégral, c'est pas grave.
On revient dans 5 minutes.
On revient dans 5 minutes.
Vous pouvez faire défiler le...
Tout faire ici, hein. C'est, mais vous savez, il se passe toujours quelque chose à Tine. C'est ça qui est bien. Vous avez bien fait de venir.
Je vais peut-être faire un petit
reportage.
Ah ouais,
alors, il se passe quelque chose avec toi.
C'est pour ça que la police municipale, elle va être armée. C'est normal, qu'est-ce que vous voulez. Voilà.
Deux ans,
d'accord. Franchement, j'avais pas.
C'est récent, puisque on est allé en stage il y a deux ans.
D'accord.
Il y en a de plus en plus.
Attends, il y a une intrusion. Hein. Mmh. C'est centrale transmetteur, intrusion, détecteur 1, groupe 1. C'est possible avec le vent.
Oui, il suffit.
C'était allumé quand on est arrivé là.
Oui, mais ça, c'est normal, c'est le ménage.
À 8 heures.
Ils sont partis juste quand on les a croisés, là. Quand on est arrivé.
Ils partent juste arrivés. Au moment où nous. Enfin, quelque chose.
Oui, à 8 heures, oui, encore les gens du ménage. Mais
alors, là c'est le... détecteur numéro 2, entrée côté mairie.
Ah, là, c'est eux maintenant.
Mais il est possible que ce soit le vent, il suffit qu'il y ait.
Surtout que le bâtiment étant tellement étanche,
oui, c'est pour
je
eux,
pense hein. qu'un vent un tout petit peu
c'est
fort.
C'est pour eux, et puis il suffit que tu aies une fenêtre qui fasse... Enfin, je veux dire, le vent, ça déclenche des alarmes très facilement.
Je vous le donne ?
Ah oui, c'est vrai. C'est quoi, cette histoire de papier qui était...
Ils ont mal plié leur bras.
Ah.
Et demain, le titre a-t-il le conseil municipal une partie du conseil municipal disparaît. Vous allez faire la une souvent, finalement, si elle devait.
Déjà, la fuite de gaz. Mathilde, jamais t'en passé sur le journal que ce temps-ci.
Bah ouais, mais...
C'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur Thiel ou...
Ben,
ou avant, il y avait rien.
C'est-à-dire que sur Beno, il y a presque rien. Bon, sur Thiel, je trouve quelques sujets fouillants. Hein. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes plus bavard que les Bénois.
L'association là qu'on avait dont on avait parlé, M. Vodès, il a fait une.
C'est génial.
Ah ouais,
la semaine prochaine, vous avez le CME.
Voilà, ouais. C'est à quelle heure?
À 10h samedi prochain. L'installation du conseil municipal des enfants.
Parfait,
super. Enfin, on ne sera pas très long, ah, là, c'est juste.
C'était une araignée ?
C'est la porte qui était fermée.
Ah.
Avec le vent, voilà.
C'est un bon test.
Ah. Isabelle, vous l'avez perdue.
Il y en a
marre qui dorment là-bas.
Ouais, parce que la porte elle a tendance à bouger. Il va faire surveiller. Ouais.
On préfère surveiller.
Tant qu'il y a du vent.
Ils vont arriver, je
en plein dans
son
élan
d'orientation
budgétaire.
Ouais,
même avant, quoi. L'objectif, c'est de débattre. Hein, donc.
Ou pas, mais...
Ou pas.
C'est vous qui voyez.
Ça dépend, vous avez envie de rentrer.
De bois là. On a
ah,
vu
c'est,
un...
c'est
non, mais on a vu le chemin de la lage là, qui est une parcelle de bois sur le bord du canal là, qui a été rasé complètement. Ouais. Alors est-ce que c'est Nièvrose, est-ce que c'est Tille?
C'est Nièvrose.
C'est juste avant Tille.
C'est alors, Nièvrose.
C'est au niveau de la barrière, juste avant la barrière.
Après
la barrière. Bah, entre les deux barrières. Mais
ouais.
Mais c'est côté Nièvrose.
Ah c'est côté Nièvrose.
Ouais.
Tille ça s'arrête sur les deux premiers étangs.
D'accord.
Tout ce qui est au fond, après, c'est Nièvrose. On est très vite séché chez Nièvrose, en fait.
C'est chemin du poteau, c'est vraiment l'étang de Tille, et après, c'est tout de suite Nièvrose.
D'accord.
Donc, on nous a...
Ça va être là ?
Ouais.
Toute cette zone. D'accord.
Toute cette zone, c'est le champ photovoltaïque de Nièvrose.
Ah, d'accord.
C'est vrai qu'ils ont rasé tous les arbres.
Oui. Il y avait un joli sentier, là.
Ouais, il est mort. C'est moi qui l'avais tracé, le sentier. Ouais. Pour la Corde de l'Oignon, ouais. J'y suis passé hier.
C'est ça. C'est Vincent Brault qui l'avait rouvert.
Que le début, il n'y a que le début, après il faut ressortir maintenant, retourner sur le chemin de relâche.
Ouais.
En plus avec les engins, ils ont fait des ornières.
Ouais, ouais, ouais. Exact.
Ouais. Il est foutu.
Et donc le terrain, le futur terrain, il est situé vers les étangs.
Le terrain pour nous du champ photovoltaïque, il est, quand vous regardez les étangs de Tille, il est sur là où il y avait les anciennes carrières.
Oui, on l'a eu.
Presque en face du château d'eau.
On l'a eu. C'était une porte avec le vent.
Il y a la ligne à haute tension, et enfin c'est en friche quoi.
C'est sous les lignes à haute tension.
On ne peut rien en faire parce que ça a été remblayé par les carrières. Donc c'est ce type de terrain que les sociétés recherchent parce que ce n'est pas du terrain agricole. Et c'est quelque chose qui n'est pas exploitable, quoi. On ne peut pas construire, on ne peut rien faire dessus, à part ça.
Les pêcheurs, alors.
Comment ?
Les pêcheurs.
Ah non, mais là, ça ne touche pas la... Non, c'est vraiment... Les pêcheurs, ils sont en dessous. Enfin, même le chemin qui les emmène, il n'est pas concerné. C'est vraiment à partir, après, que voilà, c'est vraiment... Personne n'y va sur cet endroit, parce qu'ils poussent le truc du... comment ça s'appelle, l'herbe... qui envahit tout, là, le truc du Japon, je sais pas quoi, là.
La renouée
du Japon, là. Le truc qui est très envahissant et qui est... Il y a ça, et puis de temps en temps, EDF, ils font tout raser, mais il n'y a rien. C'est vraiment du remblai. Quand les carrières, avant de partir, ont tout remblayé, et puis c'est comme ça depuis que les carrières sont parties. C'est bon ? Ah oui. Alors, on relaisse la parole à Olivier.
Du coup, effectivement, la délibération qu'on vous présente concerne le débat d'orientation budgétaire.
Oui.
Oui, c'est bon.
C'est bon. Avant partir.
Ouais.
Olivier avait déjà commencé.
C'est bon. Du coup, ce débat d'orientation budgétaire, il n'est pas obligatoire pour une commune comme la nôtre, hein, puisqu'il est obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants. Néanmoins, on l'avait inscrit dans le cadre du règlement intérieur qu'on a voté en juin 2020. Donc chaque année, on aura cet exercice-là de présentation. L'objectif de ce document, c'est à la fois de faire un petit point sur le contexte mondial, le contexte français, et puis sur l'impact pour la commune de tout ça, et puis de voir ensemble la situation de la commune et la perspective en direction du budget, puisque l'objectif sera de voter derrière le budget en mars. Pour la commune, et on adoptera en même temps, si tout va bien, le compte administratif et le compte de gestion de la commune.
C'est bon, on n'a pas de rétro.
Ouais, mais vous l'avez tous appris par cœur, donc c'est bon. Sur le contexte mondial, j'y reviens pas. Hein. Vous savez comme moi qu'il y a la Covid actuellement qui a fortement ralenti l'économie mondiale. J'ai mis une phrase, ou on avait mis une phrase un peu optimiste sur le vaccin, vu le contexte. Je suis pas sûr que la phrase vaille toujours complètement. Et puis vu la variante anglaise du virus, peut-être non plus.
Et
sud-africaine, non plus.
Et la japonaise.
Et la brésilienne.
Et la brésilienne. Et la brésilienne.
Donc bon, ça restait encore un dub relativement optimiste.
Oui. Finalement. Comment tu dis, Vincent ?
Il y en a une française qui a été détectée, qui n'est ni sud-africaine, ni anglaise, ni machin.
Qui est bien française.
Qui vient bien de chez nous, après.
Ah, ça ne m'étonne pas des Français, ça. Ils ne veulent pas les virus des autres.
Oui.
C'est clair.
La Beaujolais.
Du coup, sur le contexte économique français, donc on est sur une croissance négative en 2020 de 10%, un espoir de rebond, mais je pense qu'on va pouvoir l'enterrer aussi, qui était de 6% d'après les analystes en octobre-novembre 2020. Il est probable qu'on retourne vers une croissance qui sera à nouveau négative en 2021. Aujourd'hui, évidemment, les finances de l'État sont fortement entamées par tout ça. Les finances aujourd'hui des collectivités, d'une commune comme la nôtre, pas trop sous la réserve de ce qu'on va présenter tout à l'heure en termes de dépenses et de recettes, qui de fait évoluent avec la pandémie, mais aujourd'hui au niveau des dotations de l'État, il n'y a pas de perspective pour 2021, on verra la 2022 sera sans doute différent, de difficultés à noter en termes de recettes au niveau des différentes taxes que la commune peut percevoir, y compris la taxe d'habitation qui est aujourd'hui compensée par l'État et qui permet pour l'instant de prévoir une évolution positive sur notre territoire, vu le développement et le nombre de maisons qui se construisent sur la commune. On vous a indiqué aussi quelques éléments sur la situation de la commune de Thil par rapport aux autres communes de sa strate. Donc c'est toujours intéressant de voir aussi par rapport aux autres communes comment il se situe notre budget. Donc ce qui vous était indiqué, c'est que globalement, la capacité de la commune en termes d'investissement est très limitée, puisqu'on a du mal à dégager des recettes de fonctionnement dans le cadre de notre budget, au vu des dépenses de fonctionnement qu'on a, qui ne sont pas plus élevées que dans d'autres communes de notre strate. Par contre, les recettes sont sensiblement plus faibles. Du fait, on n'a pas beaucoup de tissu économique, on n'a pas beaucoup de recettes potentielles à déployer. On a aujourd'hui une école sur laquelle la tarification est relativement faible aussi, donc qui amène des recettes importantes, mais pas non plus extraordinaires. Donc cette capacité d'investissement, il va falloir qu'on fasse aussi avec, dans le cadre du mandat. La chance qu'on a aujourd'hui, dans le cadre de ce mandat-là, c'est le legs qu'a obtenu la commune il y a 2 ans, qui a été intégré dans le budget 2019 de la commune et qui permet du coup d'avoir une capacité d'investissement importante, mais qui est une capacité d'investissement temporaire due à une recette exceptionnelle et qui n'est pas structurelle au niveau de la commune. On vous a fait également un petit point sur l'évolution du budget de 2017 à 2020. Donc avec peu d'évolutions quand même notables, on est toujours sur un budget et des dépenses de fonctionnement relativement stables autour de 700 000 euros par an, donc un budget qui est modeste. La commune compte aujourd'hui 12 agents en exercice, dont 10 titulaires. Pas d'évolution importante de la masse salariale aujourd'hui de la commune, plutôt une baisse depuis 2018 liée au départ de l'ancienne directrice générale des services qui avait un salaire important. Et des dépenses supplémentaires, on le verra tout à l'heure, sur le volet du personnel, lié au Covid notamment. Il y a des remplacements qu'on a dû effectuer suite à un arrêt aussi longue maladie de l'agent d'accueil de la commune. En termes de recettes, de la même manière, on voit la recette exceptionnelle intégrée en 2019 dans le cadre de notre budget, donc de 567 000 euros suite au legs qui a été fait à la commune. Ce qui est important aussi de noter, c'est les pertes de recettes au niveau du périscolaire. Donc une perte de 36 000 euros de recettes pour la commune au vu de la fermeture de l'école. Donc pas de cantine qui a pu être faite, pas de temps de garderie le matin ni l'après-midi qui a pu être fait. Et malgré tout, évidemment, des agents au niveau... À partir du premier confinement, oui, tout à fait. Ouais. Et à partir de là, du coup, des dépenses qui ont aussi augmenté en termes de fourniture, notamment de matériel pour l'école. Donc ce que je voulais dire, c'est que les agents communaux, évidemment, ils ont été rémunérés pendant toute la période, et eux, ils ont bien été, du coup, une dépense pour la commune qui n'était pas couverte par la recette habituelle qu'on avait pour la cantine et le périscolaire.
En termes d'investissement, également, je vous ai mis les éléments. Ce qui est à noter, c'est que l'investissement de la commune est particulièrement faible, globalement, depuis des années. Donc, ce qui fait qu'on retrouve aussi l'état de la commune qui est assez catastrophique, si je grossis un peu le trait, mais en tout cas, qui n'est pas très bon. Et on voit qu'on a eu des fuites de gaz, on voit que l'école, on est obligé de se déplacer parce qu'il y a du vent. Donc, c'est qu'il y a un petit problème au niveau des portes
Et puis, il y a des routes
de
communales qui sont un tout petit peu exsangues aussi.
C'est ça. Donc aujourd'hui, effectivement, on a des dépenses d'investissement limitées, des recettes d'investissement extrêmement limitées également, puisque c'est quelques taxes qu'on peut percevoir, mais qui sont à des degrés extrêmement faibles, qui ne permettent pas non plus de couvrir les dépenses qu'on pourrait réaliser demain, et des emprunts relativement limités, donc on y viendra aussi un peu plus tard sur ce volet-là. Sur le bilan du budget 2020, donc j'y vais très rapidement parce que j'en ai déjà dit un peu, des dépenses supplémentaires sur le budget 2020 liées notamment à la fourniture de masques et de gel hydroalcoolique. Donc, on a quand même eu pour 3000 euros de dépenses pour la commune. On a une petite recette de l'État de 660 euros qui est venue compenser le financement de quelques masques. Le Covid, donc ce que je disais, a fortement impacté l'école, hein, puisque la commune a dépensé 14 000 euros de moins, certes, pour payer le fournisseur des repas, mais il y a eu une baisse de recettes donc de 35 000 euros, ce qui fait une perte sèche pour la commune de 21 000 euros, donc quasiment sa capacité de financement. Les charges de personnel, donc, comme je le disais aussi, sont un peu plus élevées qu'en 2019, mais du fait de remplacements qu'on a eu cet été, puisqu'il y a un agent technique qui est venu sur 2 mois compléter le remplacement de la personne à la maladie, puis à l'école, quand même pas mal de remplacements qui ont dû être réalisés aussi suite au Covid ou à d'autres problématiques de santé. En positif, à noter quand même une recette exceptionnelle du département, puisque le département nous a loué 28 000 euros à titre du soutien aux communes, donc ce qui n'est pas neutre non plus, qui a permis aussi de limiter les dégâts sur le budget. Une dotation communautaire venue de la CCMP qui a augmenté de 8 000 euros, mais qui est grosso modo, enfin pas qui est grosso modo, qui est carrément même au plafond de ce qu'elle peut être, au vu des règles d'aujourd'hui. Donc on verra si les règles évoluent, mais en tout cas elle est au maximum, donc il est quand même fort probable que dans les années qui suivent, si les règles ne changent pas, que cette recette soit plus faible dans les années à venir, puisque là c'était plutôt la situation exceptionnelle de l'économie qui avait permis d'augmenter cette dotation-là. A priori en 2021, on peut avoir espoir de ne pas être très éloigné de ce montant-là, mais en 2022, il ne faudra pas s'illusionner, on ne sera carrément pas, on sera sur une recette bien inférieure. Dans le budget 2020, également pas mal de travaux exceptionnels qui ont dû être conduits, ce que je disais tout à l'heure, au vu de l'état du village et des travaux qui restaient à faire. Donc l'abattage d'arbres malades du chancre coloré, donc on a délibéré il y a quelques temps, donc pour un montant de près de 15 000 euros, même si on attend une recette du département qui devrait nous couvrir de la moitié de cette dépense. La fuite de gaz qui a entraîné la fermeture de l'école en décembre.
Pas de subvention.
Pas de subvention, là. Travaux dans l'école, suite à plusieurs rapports de l'APAV qui avaient indiqué des travaux à faire pour la sécurité des enfants, donc qui ont été réalisés en partie, mais il en restera encore d'autres à réaliser. La téléphonie, là, qui a été changée toute récemment, aussi bien au niveau de la mairie que de l'école. Donc on va espérer qu'on sera bien plus joignable, y compris l'école, qu'auparavant. Et puis la connexion Internet qui devrait être aussi meilleure pour l'école, puisqu'on a rééquipé aussi de bornes Wi-Fi le bâtiment. On a révisé aussi un certain nombre de contrats. On n'a sans doute pas fini de réviser les contrats suite à des prestataires qui ne nous donnaient pas satisfaction, notamment pour l'entretien des chaudières, puisqu'on a pu sauver une chaudière grâce juste au changement de prestataire, alors qu'on nous conseillait de changer carrément la chaudière sur le précédent prestataire.
On a quand même, en payant moins cher de maintenance, sauvé en plus une chaudière. Donc,
De la même manière, dans les évolutions, la commune a changé aussi sa stratégie de communication et les éléments qu'elle fournit. Un compte Facebook dès l'installation du conseil municipal en mai 2020, au fil de til qui est produit entièrement par l'équipe municipale aujourd'hui. Sauf l'impression, mais tout le reste, de A à Z, est assuré par l'équipe municipale. Et un nouveau site internet, donc, qui a été également mis en place tout récemment pour un coût modeste, puisqu'on a payé le prestataire pour la structure, mais que c'est également l'équipe municipale qui a travaillé pour sa réalisation. Dans les éléments importants pour finir sur l'année passée, et puis on en reparlera dans le cadre du compte administratif quand on clôturera les comptes, c'est la situation budgétaire de la commune. suite au transfert du budget assainissement de la commune vers la CCMP, puisque le budget avait été clôturé positivement sur le budget de la commune, mais négativement en déficit au niveau du budget assainissement. Ce déficit n'avait pas été intégré dans le budget au moment de la clôture, puisque le compte administratif avait été clôturé tôt dans l'année et ne permettait pas du coup cette intégration-là. Ce qui fait qu'on a une recette exceptionnelle de la CCMP qui est venue couvrir cette dépense, mais qui n'est pas réintégrée aujourd'hui dans le budget 2020. Donc, ce qui fait qu'on va avoir faussement un budget positif cette année, mais qui en fait a impacté le budget de l'année précédente. Les résultats qui étaient indiqués dans le cadre du compte administratif, il faut les considérer comme inférieurs en réalité à ce qui avait été voté à l'époque. Concernant le budget 2021, pour terminer, puis j'essaierai, si vous avez des questions, réagir. Le budget 2021 devrait être relativement ambitieux, c'est-à-dire qu'il prévoira des dépenses d'investissement relativement importantes, en tout cas à l'échelle de la commune et de ce qui avait été fait dans les précédents budgets. Systématiquement, on ira chercher des recettes auprès des différents partenaires, que ce soit l'État, le département et la région, pour ne citer que, mais sans doute peut-être aussi la CCMP et d'autres financeurs, comme on l'a vu tout à l'heure pour l'isolation des combles. Et ce budget, du coup, prévoira, vous verrez, des dépenses importantes, mais pas forcément les recettes en face à ce stade-là, puisque les recettes seront à aller chercher et on ne pourra pas les intégrer. Et on se servira justement des réserves de la commune actuelle pour permettre de prévoir l'investissement des différentes dépenses à réaliser. Donc, dans le document qui vous a été fourni avant ce conseil, j'ai ciblé quelques éléments, mais on en ciblera d'autres lors du budget, puisqu'on posera clairement là, les opérations qu'on réalisera. Il y a la transformation du Citistan, puisqu'on avait délibéré en fin d'année pour rechercher aussi des aides au niveau du département et de la DETR, donc des financements de l'État, pour équiper de nouveaux matériels, notamment sportifs, le Citistan. Il y a aussi un projet qui est en cours, mais on en parlera ultérieurement, pour la réalisation et la transformation du Citistan. Des travaux à conduire au niveau de l'école aussi. On a parlé tout à l'heure de l'isolation, mais on sait aussi qu'au vu du nombre de constructions sur la commune, il va falloir redimensionner aussi l'école. Donc, pas de dépenses importantes en 2021 sur ce sujet-là, mais sans doute des coûts d'études au moins pour voir vers quoi on peut aller et quelle serait la cible d'ici la fin du mandat pour faire évoluer l'école, pour pouvoir accueillir les nouveaux enfants qui vont arriver sur la commune. Sur la voirie, vous le voyez tous les jours, la voirie est en piètre état, notamment par rapport à l'assainissement, mais pas que. Mais ça permettra, en tout cas pour les voiries qui sont dotées aujourd'hui de l'assainissement, de réfléchir sur les évolutions qu'on pourrait proposer. Donc on avait cité la rue Neuve, la rue d'Église, le chemin de la Brayonne, c'est pas exhaustif, on verra concrètement ce qui pourra se réaliser. Et puis une nouvelle dépense en termes de fonctionnement, qui est la police municipale, donc on a évoqué tout à l'heure en cas de délibération, autour de 13 000 euros par an. Enfin, dernier point, et j'en termine, concernant la dette. Donc la commune est faiblement endettée, globalement, on est plutôt une commune qui aujourd'hui a mobilisé peu d'emprunts, qui aujourd'hui a une fin d'emprunt aussi sur quelques opérations, une dernière fin d'emprunt en 2025 pour les travaux qui concernaient l'école, et par contre un nouvel emprunt qui va arriver pour les eaux pluviales, pour un montant de 100 000 euros qui avait été pris lors du précédent mandat. Nous avions la possibilité, vous le verrez quand on votera le compte administratif 2021, de réactiver un nouvel emprunt de 100 000 euros pour continuer à couvrir cette dépense-là. Le choix a été fait, en tout cas pour l'instant, et puis on l'actera en conseil au mois de mars, de ne pas réactiver d'emprunt et de se servir plutôt des fonds aujourd'hui de la commune qui sont importants, plutôt que de faire de l'emprunt qui limite de fait notre capacité ensuite de fonctionnement et d'investissement pour les années à venir. Le dernier point, et j'en terminerai par là, c'est les deux opérations qui sont aujourd'hui portées par l'établissement public foncier pour deux terrains pour la commune, pour un montant de 250 000 et de 320 000. Donc c'est des terrains pour l'instant sur lesquels il n'y a pas d'opération repérée, donc on travaille depuis qu'on est arrivé sur cette question-là. En 2021, on a espoir qu'au moins un des deux terrains puisse se régler, si ce n'est les deux. En tout état de cause, il est fort probable que sur un des terrains, qui est actuellement porté par l'EPF, il y a une opération à prévoir dans le budget au cas où le jugement qui est en cours pour cette opération-là nous soit défavorable, en tout cas, ne permette pas l'achat du terrain, de devoir réintégrer une dépense qui est estimée, qui sera d'un montant de 125 000 euros pour cette année, donc qui concerne grosso modo 6/12 de la valeur du terrain puisqu'on va repartir comme sur le terrain, la parcelle Presnik aujourd'hui, en 12e, et qu'il va falloir rattraper les 5 ans où la commune n'a pour l'instant pas payé, puisque le portage ne prévoyait pas ces paiements-là. Donc voilà pour le DOB tel qu'il est présenté, sachant qu'on reviendra sur le budget après plus concrètement pour adopter les comptes 2020 et puis la préparation du budget 2021. Voilà, si vous avez des questions, si je ne vous ai pas assommé.
Non, ça va. Ça va, il y avait quand même des choses aussi qu'on avait évoquées lors de la com finance et des choses qu'on a évoquées en com générale la semaine dernière. Donc,
du coup, vous verrez, enfin, pour les personnes qui écoutent le conseil ou qui regarderont, vous verrez qu'il y a les graphiques, les tableaux précis qui présentent du coup la situation budgétaire de manière un peu plus claire que peut-être que ce que je dis à l'oral.
Non, c'est bon, ça va nous amuser. Pas de spécialiste de comptage.
Si vous n'avez pas de questions, cette délibération ne s'adopte pas réellement. On va juste prendre acte que j'ai bien présenté le DOB, comme vous l'avez tous entendu.
Investir mais s'endetter, mais profiter de l'effet de levier de l'emprunt, ou au contraire, plutôt avoir une attitude plus, on va dire, plus traditionnelle, où on part pas dans des emprunts, ok, on n'a pas d'investissement, donc on n'aura pas de recette d'investissement, mais en même temps, on a une dette assez légère. Voilà. Donc il y avait un équilibre. Olivier, je crois, tu avais expliqué que... Il est plutôt conseillé, en fait, d'avoir une certaine prudence quant à une augmentation trop importante de la dette.
Ben, il y a deux choses. Il va falloir qu'on étale un peu les investissements sur tout le mandat pour qu'on puisse chercher les recettes au fur et à mesure et constituer le budget par rapport à ça. On a la chance d'avoir des réserves importantes au niveau de la commune qu'on peut mobiliser facilement. Le contexte, quand même, va être plutôt favorable, quelque part, pour les communes, j'imagine, sauf rupture complètement de l'État sur le sujet. Mais l'État va chercher à ce que les communes investissent et fassent des travaux, à un moment ou à un autre, pour encourager le secteur économique aussi. Donc, on peut espérer qu'il y aura des aides pour nous accompagner dans cette démarche-là. L'emprunt, à mon sens, on le mobilisera sur une, voire deux maximum, grosses opérations que conduira la commune pour le faire. L'emprunt, on en fera s'il faut redimensionner l'école, s'il faut faire des gros travaux à un moment donné sur la voirie ou sur autre chose. Il va falloir qu'on y réfléchisse, mais sur les petites opérations, pour l'instant, les réserves qu'on a étant plus importantes qu'un an de budget, ce qui est quand même rare pour une commune d'avoir cette réserve-là, nous permet de voir venir. Quoi. Mais par contre, il va falloir avoir cette démarche un peu prudentielle et puis se mettre d'accord sur la durée du mandat, à quel niveau, grosso modo, on laisse la commune à la fin du mandat. Mais ça, on a encore le temps de le construire.
Et surtout, le fait aussi, c'est que pour mobiliser de l'emprunt, il faut, ça, c'est par projet. Ce n'est pas un emprunt où on dit, tiens, on va emprunter tant d'argent, ça va nous permettre de faire ça, ça ou ça. Oui. Ça ne fonctionne pas comme ça. Oui. C'est pour ça que c'est aussi, il faut mieux avoir un emprunt sur un gros projet. Parce que là, c'est...
On n'emprunte pas un pot que l'on pourrait distribuer.
C'est ça.
Autant
à titre particulier, tu peux faire, si tu as plusieurs choses à faire chez toi, tu peux dire, je fais un emprunt de telle somme, et puis ça, au niveau d'une commune, c'est pas possible, quoi. Donc il faut vraiment que ce soit par projet. Donc c'est pour ça qu'on va pas non plus faire un emprunt pour la rue, telle rue. Enfin, c'est pas envisageable de cette manière. Il faut mieux mobiliser, comme dit Olivier, l'emprunt sur un gros ou deux gros projets. Mais pas sur des petites, même si ça coûte quand même de l'argent, mais c'est aussi dans la procédure que c'est un peu différent. Voilà. Ça nous oblige à ça.
Mon propos était plutôt autour de la politique d'investissement, au sens général. Est-ce qu'on allait être dans un mouvement un peu plus ambitieux que ce qui a été le cas jusqu'à présent, où d'un côté on dit effectivement on n'a pas de dette. Et de l'autre côté, on dit qu'on a une commune qui est en décrépitude.
Bah, c'est ça. En fait,
on ne peut pas gagner sur tous les tableaux.
Non, bien sûr. Voilà. Mais comment dire, enfin, je pense qu'il y a quand même une demande, enfin, certainement une demande des habitants d'avoir des accès, notamment au niveau des chemins communaux, des choses qui soient quand même praticables, parce qu'il y en a quand même certains qui sont même pas praticables, quoi. Donc voilà, je pense qu'on se doit aussi, avec toutes les nouvelles, enfin la nouvelle population, nouveaux habitants qui vont arriver, leur donner ne serait-ce qu'un chemin praticable, éclairé, enfin voilà, quelque chose de.
Les sujets manquent pas.
Non.
Surtout que nous, on le voit très bien, on a repris la commune, il n'y a pas grand-chose qui a été fait.
Ouais.
Que malheureusement, dès la première année, on est déjà obligé de taper un peu dans les réserves pour rattraper tout ce qui n'a pas été fait pour X raisons.
C'est ça.
Voilà. On parlait de la voirie, on n'a rien fait pendant des années parce que soi-disant, il y avait l'assainissement. Mais un enrobé, ça dure 8 ans, un bicouche, 5 ans. Donc, du moment, il y a certains chemins communaux quand même qui auraient besoin d'un peu de réflexion. Et là, on va payer, à mon avis, très cher le manque,
oui,
le manque d'entretien qu'il y a eu sur beaucoup de choses.
Ouais. En fait, c'est ça, c'est qu'il va y avoir un surcoût même de ces investissements-là. Parce que s'il y a un entretien régulier, c'est moindre coût que quand il faut tout reprendre, quoi. C'est ça le problème.
C'est planifier dans le temps sur le mandat. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de planifier ça sur 6 ans et de faire quand même des choses. Et même si on laisse la commune avec une moins belle capacité financière que nos prédécesseurs, mais dans un meilleur état, c'est aussi bénéfique, c'est aussi bénéfique pour les autres,
finalement,
pour ceux qui reprendront derrière.
Mais cet enjeu, il va être dans la recherche de cet équilibre.
Ouais.
Et puis les subventions qu'on va pouvoir avoir, etc.
Ça, c'est
à un moment, il y a des choses, on est pratiquement sûr que pour avoir des subventions, ça va être très compliqué.
Oui.
La voirie communale, par exemple, à part des aménagements de sécurité sur les départementales, on pourra peut-être aller chercher des subventions au niveau de la communauté de communes, mais les chemins communaux, on ne voit pas quel projet. Voilà, il va falloir vraiment qu'on se creuse les méninges pour trouver. Et à un moment, voilà, il faudra quand même y passer, parce qu'il y a certaines personnes qui... Enfin, c'est compliqué quand même de rentrer chez eux.
Bon,
c'est un équilibre qui est compliqué à avoir.
Non, c'est qu'un débat qui s'ouvre. Hein, c'est vrai qu'il faut bien, avoir conscience de ça, quoi. Que là, on part vraiment de loin et que on le voit bien pour ne serait-ce que pour une installation téléphonique, quoi. On s'est aperçu que les fosses sceptiques, par exemple, on a fait vider les deux fosses sceptiques de la mairie et de l'école qui n'avaient pas, ça n'avait pas été fait depuis très longtemps. Les puits perdus de la commune, on attend le devis, ça n'a pas été fait depuis très très longtemps. Ça, c'est, alors ça, ça se voit pas, mais malgré tout, le jour où c'est bouché, ça se voit, c'est sûr.
Et on peut se féliciter d'avoir beaucoup d'économies, mais si derrière ça n'a pas été entendu,
c'est ça. Donc d'un coup, ça coûte cher tout de suite. Voilà.
Et on est en plus contraint, on ne maîtrise pas notre budget dans un plan pluriannuel, on est contraint de procéder après, comme pour le gaz par exemple.
Pour le gaz par exemple, il fallait vraiment faire tout refaire, l'installation propre. Et il y avait, non, en plus, il y avait urgence, enfin tout quoi.
Il y a des urgences. Des urgences imprévues.
Voilà.
Du coup, tu ne compares pas tes fournisseurs, tu es obligé de faire un urgence.
Là, c'est non. Déjà, t'en trouves un, c'est déjà bien, qui te fait ça dans un délai. Ouais, mais voilà quoi.
Très bien. Merci, Olivier.
Merci, Olivier.
Il faut quand même délibérer.
Mais on vote pas.
Ah, si, il faut voter. Quand
même. Ah, faut voter quand même.
Pas le job lui-même, et que vous m'avez entendu.
Ah, d'accord. Alors,
Je vais sur la
Alors, nous allons donc voter, à savoir, avons-nous bien entendu Olivier clairement ce soir nous expliquer ce débat d'orientation budgétaire ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité ? Merci. Et sur ces bonnes paroles, nous allons pouvoir clôturer cet enregistrement à la salle des fêtes à 21h36, ce 21 janvier 2021.